fonctionne pas qu'avec leur cri.
C'est que j'aille croiser.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien bonsoir et bonne année aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, puisque c'est la première émission de l'année 2019.
Donc bonne année.
Tous nos voeux à tout le monde. On vous souhaite plein de bonnes choses et on en souhaite plein aussi aux droits humains qui, comme j'ai l'habitude de le dire, en ont bien besoin. Donc pour faire l'émission avec moi ce soir, il y a Claire-Lise.
Bonne année.
Il y a Françoise.
Bonne année.
Il y a Nathalie qui vient pour la première fois, si je ne me trompe pas, à l'antenne.
Oui, bonne année.
Nathalie, il faut que tu parles plus, elle n'est pas au courant de la radio trop, elle n'a pas l'expérience. On lui dit qu'il faut qu'elle parle plus près du micro, voilà. Et puis Vincent qui nous fait la technique une fois de plus ce soir, très gentiment, donc on salue. Mais pas bonne année à Vincent parce qu'on l'a déjà vu depuis le début du mois de janvier.
Moi aussi, bonne année quand même.
Oui.
T'exagères.
Bon voilà, donc pour vous parler de...
Et toi, tu te présentes pas, toi?
Ben moi, je suis... Comment je m'appelle? Je ne sais plus. Quelqu'un se rappelle de mon nom?
Patrick,
ouais. C'est ça. Ouais.
Jean-Patrick.
Non, c'est Didier. Donc voilà, pour commencer l'année, je pense qu'il n'y a rien de mieux. On va vous donner tout de suite une info locale. Ce n'est pas trop notre habitude de commencer par ça, mais c'est une info locale importante. Et je pense que pour bien commencer l'année, il n'y a rien de mieux quand même que de passer un moment en musique, et surtout de la très bonne musique. Donc on vous demande de réserver dès maintenant votre soirée du samedi 2 février prochain, et de venir nous retrouver au Cube, à la salle des musiques actuelles. Inutile de vous dire où ça se trouve, hein, c'est très facile. On a une soirée spéciale Amnesty qui va se dérouler en deux temps, avec d'abord une conférence co-animée par Katia Roux d'Amnesty International France, et qui va parler des conséquences de l'esclavage et des conséquences en termes de dignité humaine de la pratique de l'esclavage et de la réalité de l'esclavage encore aujourd'hui. Et puis après, il y a un groupe qui s'appelle Delgrès qui fait du blues rock créole. C'est très très bien. D'ailleurs, pendant l'émission, nos illustrations musicales ce soir, ce sera que des morceaux de Delgrès.
Ah, tant mieux.
Et donc ce groupe a choisi son nom en hommage à un défenseur des Guadeloupéens des droits humains qui est mort en 1802. Parce qu'il s'est rebellé, il est mort, ils se sont suicidés avec ses partisans, parce qu'en 1802, Napoléon voulait rétablir l'esclavage qui avait été supprimé par la Révolution française. Donc ils ont lutté militairement et ils se sont suicidés plutôt que de tomber entre les mains des Napoléoniens. Voilà, donc ce monsieur s'appelait Delgrès et c'est en hommage à ce combattant historique pour la suppression de l'esclavage que le groupe d'origine guadeloupéenne a repris aussi ce nom. Donc voilà, samedi 2 février, au Cube, soirée Amnesty. On en reparlera bien sûr à la fin de l'émission, mais notez-le déjà. Et pour commencer l'année, ben vous savez qu'au mois de décembre, il y avait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, on a eu l'occasion d'en parler pendant nos émissions du mois de décembre, mais ce n'est pas très très vieux cet anniversaire, c'était le 70e anniversaire. Et Déclaration universelle des droits de l'homme, nous on préfère dire Déclaration universelle des droits humains, ça nous paraît plus juste. Et il y a un article qui est paru dans la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France. On vous conseille de vous abonner, hein, c'est très facile sur le site d'Amnesty pour s'abonner. Et donc sur ce mensuel, il y avait un article au mois de décembre, on n'a pas eu le temps de vous en parler, mais je voulais quand même vous en dire un petit mot, parce qu'il y a des choses très justes. C'est un article qui a été fait par Justine Lacroix, qui est elle-même diplômée de Sciences Po et qui est docteur en sciences politiques, et qui a beaucoup travaillé sur les droits humains. Et voici ce qu'elle dit. Donc la situation des droits humains subit actuellement un renouveau des critiques qui sont adressées à cette déclaration. Alors elle dit, je distingue deux grands axes de critiques. Le premier estime que le discours contemporain de célébration des droits de l'homme mène à une radicalisation de l'individualisme. En somme, nos droits humains favoriseraient une dissociation de la société, dilution de la collectivité démocratique, désinstitutionnalisation de la famille, perte du sens du bien commun. Un autre axe critique, plutôt de gauche, fait des droits de l'homme l'alibi du néolibéralisme. Auxiliaire d'un marché dérégulé, il serait le supplément d'âme promu par le capitalisme contemporain pour asseoir le modèle d'un individu entrepreneur obligé d'innover en permanence. Alors c'est contre ces considérations-là que Justine Lacroix continue son article. Alors, elle dit que le reproche au mouvement en faveur des droits humains, en premier lieu Amnesty International et Human Rights Watch, et on leur reproche d'avoir été aveugles à l'explosion des inégalités à partir des années 80. Il leur est fait grief de s'être davantage soucié des atteintes flagrantes à l'intégrité de la personne humaine qu'aux rapports économiques et sociaux de domination. Oubliant aussi des éléments fondamentaux des premières déclarations des droits de l'homme qui liaient égalité et liberté. La déclaration de 1789 insiste sur le fait que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et sur le fait que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité publique. Quant à celle de 1793, elle prévoyait un recours à l'assistance pour ceux incapables de travailler, soit un embryon des droits économiques et sociaux qui sont au cœur de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Plus loin, elle nous dit qu'elle est persuadée que les droits de l'homme sont la boussole de l'action politique. Mais une boussole ne suffit pas. La référence aux droits de l'homme n'épuise pas la multiplicité des conflits qui traversent une société démocratique sur le niveau des redistributions, sur les relations collectives dans le monde du travail et sur l'élaboration d'une politique de l'environnement. Les droits de l'homme ne peuvent pas répondre à tout, et heureusement. Ce sont des principes susceptibles d'orienter, d'interdire ou de fixer des limites à certaines politiques. En outre, les droits n'existent que si les acteurs eux-mêmes se les approprient et les revendiquent. On n'impose pas les droits de l'homme par la force. C'est là que l'universalité n'est pas très bien comprise. L'universel, c'est quand des communautés politiques défendent des exigences comparables, mais dans un langage différent. Il y a beaucoup de façons d'exprimer l'aspiration au respect de la dignité humaine. Le langage des droits est simplement celui qui s'est imposé dans la période contemporaine pour exprimer cette exigence. Alors, plus loin dans l'article, elle évoque les liens qui correspondent entre droits de l'homme et démocratie. Et elle dit « Je crois qu'ils sont indissociables. Pourquoi ? Parce que la démocratie représentative est un ensemble de procédures où figure le principe de l'élection, donc la volonté majoritaire du peuple. Cette élection est légitime. Et si l'on résume que les citoyens forment le corps électoral, ils ont la possibilité d'émettre un choix libre, ce qui suppose d'être libéré de la peur, de la précarité et de disposer d'une presse libre. Les droits de l'homme sont indispensables au bon fonctionnement de la démocratie et seule celle-ci, en retour, permet de garantir l'exercice des droits de l'homme. C'est en ce sens que c'est à la fois la démocratie et les droits de l'homme qui sont ébranlés aujourd'hui. » Alors, plus loin, elle continue en disant « On assiste à une régression des droits et de la démocratie. Les deux vont de pair. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas limité aux pays d'Europe centrale et orientale. Le dernier rapport annuel d'Amnesty montre bien que la régression des droits fondamentaux est un processus lourd à l'œuvre dans les pays d'Europe, dont la France et la Belgique. » Et je crois, Clarisse, que tu vas nous parler tout à l'heure de la restriction du droit de manifester, m'a dit mon petit doigt.
Oui.
Voilà, donc plus loin, je ne vous lis pas tout l'article hein, parce qu'il fait 4 pages, c'est juste un petit résumé. Mais plus loin, elle continue en disant « Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, ce sont ces enquêtes, tel ce sondage Ipsos de juillet 2018 qui témoigne d'une érosion de l'attachement aux droits fondamentaux, notamment parmi les jeunes générations. Les droits de l'homme ne sont pas une religion, mais des instruments de lutte en constante redéfinition que les communautés politiques doivent s'approprier. C'est une utopie concrète. » Et enfin, et j'en terminerai par là, elle nous dit « La déclaration ne doit-elle pas être complétée de droits nouveaux, voire repensée ? C'est une question sur laquelle je souhaiterais travailler. Comment repenser les droits de l'homme à l'heure du transhumanisme, des découvertes en matière neurologique ou dans notre rapport aux animaux ? En même temps, je me méfie de la prolifération des droits. Le texte de 1948 me semble déjà fixer beaucoup d'objectifs difficiles à atteindre. Et plutôt que de réécrire la déclaration, il faudrait s'engager dans des voies possibles de sa mise en œuvre. » Enfin, on lui demande si les droits humains ont un avenir. Oui, ils ont été et restent une façon d'articuler une certaine forme de résistance à la domination arbitraire. C'est un langage porteur d'émancipation. Peut-être inventera-t-on un autre langage, mais c'est une façon historique qui est la nôtre, d'exprimer l'aspiration à ce que nous appelons la dignité humaine. Voilà. Donc, bon, je vous renvoie à cet article hein, qui est beaucoup plus complet que ce que je viens de vous lire, donc paru dans la dernière chronique d'Amnesty International. C'est très intéressant, ça porte à réfléchir, et ça montre bien que notre combat pour les droits humains, dont on vous parle deux fois par mois sur l'antenne de Principe Actif depuis des années, est toujours un combat extrêmement d'actualité.
Voilà.
Et après, il y avait Françoise qui voulait vous parler, je crois,
oui,
d'Égypte.
Oui, d'Égypte. Et d'Amal Fati.
Voilà.
Une jeune femme de 33 ans qui a dénoncé le harcèlement sexuel. Elle a été condamnée le 29 septembre à 2 ans de prison et à 482 euros d'amende. Nous avons fait, dans le cadre de 10 jours pour signer, au mois de décembre, nous avons fait signer des pétitions. Et elle faisait partie des 10 cas pour lesquels nous faisons signer. Nous avons cru qu'elle avait été libérée. Or, elle a été libérée 2 jours. Et elle a été tout de suite réemprisonnée pour 2 ans. Voilà. Donc, nous sommes assez catastrophés de cette nouvelle.
Le procureur avait fait appel de la décision de libération de Amal Fati.
Oui.
Donc, elle a été rejugée et recondamnée.
Voilà.
Mais on ne lâchera pas.
Parce non, que, non,
comme
pas
on
du
vous
tout.
Dit à chaque fois, Amnesty ne lâche jamais. Et après, il y a Nathalie, donc, qui va inaugurer son passage à l'antenne, qui doit
va vous donner
parler.
Une bonne nouvelle.
Mais tout Nathalie, il faut parler bien dans le micro, on te le rappelle.
Oui, alors, il s'agit de 833 enfants soldats qui ont été libérés au Nigeria. Donc, je vous expose un petit peu donc, le bonne nouvelle. Dans le nord-est du Nigeria, 833 enfants associés à un groupe armé ont été libérés en 2017. Le Civilian Joint Task Force, donc CJTF, à Maïdougouri, est un groupe armé opposé à Boko Haram qui utilise de nombreux enfants. Il a monté des milices armées d'autodéfense dans de nombreux villages du nord-est du pays. Ces milices se sont fait remarquer par des exactions nombreuses. Elles considéraient que tout village ne montant pas ce genre de milice était pro-Boko Haram. Le CJTF, donc Civilian Joint Task Force, était cité dans la liste de la honte, annexée au rapport annuel du secrétariat de l'ONU, pour les enfants qui, dans les conflits armés, listent les forces armées et les groupes armés utilisant des enfants soldats et ou qui se sont fait remarquer par des actes de torture et de crimes graves contre des enfants utilisés donc en tant qu'enfants soldats par les pouvoirs en place. Le Civilian Joint Task Force a accepté de signer avec les émissaires de l'ONU un accord de libération des enfants. La responsable locale de l'UNICEF a ainsi engagé une étude de vérification du nombre d'enfants associés donc à ce groupe. Au total, 1469 enfants, comptant 1175 garçons, 294 filles, ont été recensés. En septembre 2018, donc, l'ONU a obtenu la libération de 833 enfants. Le travail de libération puis de réinsertion dans la société civile de ces enfants n'est donc pas terminé. Depuis 2017, l'UNICEF a soutenu la réintégration de plus de 8700 enfants qui étaient associés à des groupes armés dans cette région donc de l'Afrique.
Voilà. Donc voilà une nouvelle.
Une victoire.
Une victoire, effectivement. Et là, quand on va faire la première pause musicale, il y a Françoise qui me fait signe. Mais puisqu'on parlait aussi de bonnes nouvelles, on avait prévu de vous en parler tout à l'heure. On va changer un petit peu l'ordre du jour. Mais ça m'a fait penser à ça. Françoise, vous parlez des 10 jours pour signer. Et sur la bonne nouvelle très courte qu'on a eue, une libération de 2 ou 3 jours d'une personne qu'on a défendue, enfin que l'on défend. Il y en a une autre, quand même, qui est intervenue juste après les 10 jours pour signer, comme quoi il n'y a pas de hasard et que nos signatures ont du pouvoir. Ça concerne le Kirghizistan. On défend une militante qui s'appelle Gulzar Duishenova et qui se bat pour le droit des handicapés, des personnes handicapées au Kirghizistan, qui n'a jamais signé l'accord international concernant le droit des personnes handicapées. Et donc, à la suite de notre mobilisation au mois de décembre, nous avons appris que le Parlement du Kirghizistan avait ratifié la convention, enfin, s'était réuni pour dire qu'il allait ratifier la convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc, le Parlement a adopté en première lecture la loi prévoyant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Et le Kirghizistan est l'un des 3 pays de l'ex-Union soviétique qui ont signé, mais pas encore ratifié, ce texte. Donc cette étape est décisive dans la lutte contre les atteintes aux droits des personnes handicapées. L'unanimité du vote permet d'espérer que la ratification finale advienne rapidement. Une fois que la convention sera ratifiée, les personnes handicapées seront au cœur de toutes les actions entreprises par le gouvernement pour la mettre en œuvre, y compris dans les groupes de travail ou les commissions. Et donc Amnesty dit, c'est un honneur pour notre organisation d'avoir soutenu les partenaires kirghizes de la campagne pour la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Voilà, donc je voulais quand même vous en parler parce qu'on s'est mobilisé début décembre et on apprenait la nouvelle donc à la fin du mois. Donc comme quoi il n'y a pas, je pense pas, de hasard.
Et l'antenne jeune du lycée de Aristide Briand-Évreux a obtenu 1500...
Un peu moins de 1500 signatures sur cette campagne, effectivement. Cette campagne. Donc bravo à eux, effectivement, encore une fois, ils se sont mobilisés de façon très positive pour faire intervenir tout le monde. Encore une fois, quand on vous parle des campagnes d'Amnesty, c'est important d'y participer. On écoute un peu de musique et c'est bien sûr le groupe Delgrès qu'on va entendre, on vous rappelle, le 2 février.
J'attends pour nous, respectez-nous.
Sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International Évreux, on vient donc d'entendre le groupe Delgrès, donc un morceau qui s'appelle Respectez-nous. C'est ce qu'on demande aussi à Amnesty, hein, respectez-nous. Maintenant, c'est Claire Lys qui n'est pas venue depuis plusieurs émissions et qui a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire.
Alors, je vais essayer de rester calme, mais des fois quand même, ça me picote les narines et plus que les narines, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, déjà, on va parler quand même des 49 personnes qui sont restées bloquées en mer pendant 19 jours.
Ah oui.
Tandis que leur demande pour débarquer dans un port sûr était refusée. Donc, vous savez tous qu'il y a des migrants hein, en mer Méditerranée. Et il y a quand même des associations qui essayent de recueillir ces personnes sur des bateaux et d'ensuite les emmener vers des ports où ils pourraient demander asile. C'est la nouvelle mode, on ne laisse plus les bateaux accoster, donc il y a eu l'Exodus. Et cette fois-ci, ce sont 49 personnes qui sont restées bloquées. Alors, c'est le résultat d'un spectacle dangereux et indécent des personnalités politiques européennes qui se chamaillent tandis que ces êtres humains étaient pris au piège. Après avoir passé près de 3 semaines ballottées dans les flots houleux, des femmes, des hommes et des enfants sont enfin sur terre ferme, mais il est honteux qu'ils aient dû attendre aussi longtemps. Donc, les autorités italiennes et maltaises ont délibérément et éhontément compromis le système de recherche et de sauvetage et ont utilisé des personnes comme des pions pour négocier des politiques migratoires. Mais leur dur mépris pour la sécurité de ces gens a été renforcé par l'incapacité des dirigeants européens à les aider rapidement. Les États membres de l'Union européenne continuent de tourner le dos aux personnes bloquées en mer et ne s'accordent toujours pas sur une politique de débarquement rapide et prévisible, conforme au droit international, et sur un système juste de répartition des demandeurs d'asile parmi les pays de l'Union européenne. C'est un problème structurel européen. L'aspect injuste des règles européennes en matière d'asile n'encourage pas un débarquement rapide des personnes secourues. Ces règles déterminent quel pays est responsable de l'examen de la demande d'asile. En général, c'est le pays par lequel la personne demandeuse d'asile est entrée dans l'Union européenne qui a la responsabilité de les accueillir. De ce fait, un petit nombre de pays sont contraints d'étudier la majorité des demandes d'asile. En novembre 2017, le Parlement européen a accepté de modifier de façon radicale le règlement Dublin en suggérant un mécanisme contraignant visant à faire en sorte que tous les pays de l'Union européenne accueillent un nombre équitable de personnes fuyant la violence et les persécutions. Alors, on est toujours loin d'une répartition équitable et on joue à ne pas voir qu'il y a des gens qui périssent en mer et on essaye de les laisser le plus possible en dehors. Voilà. Et il y a même aussi maintenant la chasse aux migrants vers l'Angleterre parce que ils ont repéré aussi que de plus en plus de petites embarcations frêles et des canaux sont utilisés de plus en plus souvent entre les migrants qui ont peut-être quitté Calais ou sont dans le coin, mais essayent de passer en Angleterre par leurs propres moyens. Et maintenant, on va faire la chasse aussi aux personnes, puisque la France reçoit de l'argent de l'Angleterre pour garder sur ses terres les migrants qui voudraient aller en Angleterre. Alors, nous, on contente de construire un mur, quasiment, pour les empêcher de passer vers les ferries, on va les empêcher de passer avec les petits bateaux pneumatiques. Voilà. Déjà, ça m'énerve. Et puis, on va vous parler un petit peu d'Évreux aussi, maintenant. Donc, sur Évreux, ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous en parler. Donc, vous savez que je fais aussi partie du CFED Asti d'Évreux. Donc, le collectif étranger français pour l'égalité des droits, qui fait partie de l'association de solidarité à tous les étrangers et qui accompagne les personnes dans leur démarche. On ne fait pas les démarches à la place des personnes, mais on les accompagne dans leur démarche de régularisation ou dans leur démarche de demande d'asile. Il y a des éléments marquants quand même depuis l'automne et on a été confrontés à une recrudescence de personnes qui se voyaient remettre des obligations à quitter le territoire français suite à des refus de renouvellement de titres de séjour santé. Donc beaucoup de personnes avaient bénéficié d'un titre de séjour santé renouvelé une fois, deux fois. Et en fait, quand on aborde le troisième renouvellement, comme maintenant, ce ne sont plus les médecins de l'Agence régionale de santé qui sont amenés à porter un jugement sur les demandes de titre de séjour santé, mais ce sont les médecins de l'Office français de l'immigration. Ah, ils sont un petit peu moins indépendants, on va dire. On va dire ça comme
ils sont,
ça.
Ils sont plus influencés par le ministère de l'Intérieur.
Voilà, et par les directives et les quotas. Et donc, de nombreuses personnes se voient refuser leur renouvellement de titre de séjour santé alors qu'ils sont toujours malades, qu'ils viennent de pays où ils ne peuvent pas être soignés, que pour certains d'entre eux, Ils étaient même reconnus handicapés en France, je pense. Je vais dédier cette émission à Simon, qui avait un titre de séjour santé qui a été refusé. Et il faut savoir aussi que c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont une OQTF et un refus de renouvellement de titre de séjour santé, ils ne peuvent plus travailler, puisqu'ils n'ont plus de titre de séjour les autorisant à travailler. Ils ne peuvent plus percevoir des allocations spécifiques d'adultes handicapés, puisqu'ils n'ont plus de papier. Et donc, rapidement, ils risquent de perdre leur logement. C'est ce qui va arriver à Simon. Il peut être expulsable sous 2 mois. Donc, c'est une personne handicapée. On lui a refusé de renouveler son titre de séjour santé. Et il se retrouve dans une situation extrêmement dramatique. Je pense aussi à un autre monsieur qui a directement écrit à Amnesty International, qui lui aussi avait un titre de séjour santé et qui avait une reconnaissance MDPH. Donc de personnes handicapées. C'est une personne originaire de Géorgie qui nous a écrit au secours parce qu'effectivement, il avait eu une obligation à quitter le territoire français. Vous savez qu'on peut porter un recours au tribunal administratif. Ce monsieur a gagné au tribunal administratif le 30 novembre 2018. Il a gagné, le tribunal administratif de Rouen donne obligation au préfet de l'Eure de reconsidérer sa situation dans les 3 mois. 30 novembre, on est déjà le 15 janvier,
et oui.
Ils n'ont pas bougé d'une oreille à la préfecture, et ce monsieur, qui avait un logement, qui avait une allocation adulte handicapé, s'est retrouvé du jour au lendemain, quand il a eu son OQTF, à la rue, et quand il appelle le 115, alors qu'il a gagné au tribunal, il n'y a toujours pas de place pour lui. C'est un monsieur qui, tous les jours, va à l'hôpital avec son petit vanity, sa valise, qui se fait les trajets tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un monsieur qui est relativement âgé, et c'est une situation qu'on, nous, on le rencontre régulièrement au CFED, et c'est quand même pas normal de voir des personnes malades qui se retrouvent à la rue et pour qui le principe de respecter une certaine vulnérabilité, c'est pas pris en compte du tout. C'est que si vous êtes sous le coup d'une OQTF, même si elle a été annulée par le tribunal administratif, la direction départementale de la cohésion sociale estime que non, ils ne sont pas vulnérables et qu'en plus, ils n'ont plus aucun droit. Voilà.
C'est une atteinte à la dignité humaine. On en parlait en début d'émission, donc c'était évident que c'est une atteinte à la dignité humaine.
Et si je
peux dire juste un petit commentaire sur ce que tu dis, Claire-Lise, au début, par rapport aux bateaux et aux migrants, etc. C'est malheureusement une application. Bon, c'est ce qu'on redoutait, mais c'est ce qui se passe avec les bateaux qu'on empêche de naviguer, qui sont retenus dans les ports ou dont on refuse de récupérer les gens qui ont pu être sauvés malgré tout. C'est une application du principe il n'y aura plus de gens qui se noieront en Méditerranée le jour où il n'y aura plus personne pour voir qui se noie. Donc c'est une application de ça. En fait, c'est la réalité, c'est ça. C'est pas qu'il n'y a plus de gens qui se noient plus en Méditerranée, c'est qu'il n'y a plus personne qui les voit.
Donc, pour revenir au niveau local, toutes ces personnes qu'on voit arriver dans une grande détresse et qu'on essaye d'accompagner dans leur démarche pour essayer de faire un recours en annulation de l'obligation à quitter le territoire français devant le tribunal administratif, toutes ces personnes risquent de perdre leur travail, leurs allocations, leur logement. C'est des personnes qui étaient insérées dans la vie, qui ne demandaient rien d'autre que de vivre normalement et qui se retrouvent rapidement aussi, en fait, quand ils perdent tout, ils se retrouvent à la rue. Donc les femmes sont particulièrement touchées aussi. Je rappelle qu'il y a très peu de centres d'accueil d'urgence pour les femmes. Dans le département de l'Eure, il y en a 2. Monsieur Tan, le directeur adjoint de la DDCS, nous avait rappelé au mois de septembre qu'il ne fallait pas dire qu'il n'y en avait pas. Il y en a 2. Je ne suis pas sûre que ça réponde à l'extrême urgence de toutes les femmes avec enfants qui se retrouvent à la rue, parfois même à Évreux.
Il avait dit aussi que les femmes à la rue n'étaient pas forcément considérées par la loi française comme étant des personnes prioritaires pour avoir un logement.
Oui, ça, et puis un enfant de 3 ans, c'est pas forcément quelqu'un de vulnérable, nous a dit Monsieur Guillaume Pin, directeur adjoint de la DDCS.
À 3 ans, on peut se défendre tout seul.
Oui. Alors ce jour-là, le jour de cette réunion, je suis remontée, hein, mais voilà.
Non, non, mais t'as raison.
Monsieur le préfet...
On entend tellement de choses absolument absurdes.
Monsieur le préfet, monsieur Thierry Coudert, avait dit qu'il accepterait de répondre à nos courriers si on lui présentait des personnes dont on pouvait estimer qu'on pourrait revoir la situation parce qu'on pouvait s'être trompé. Donc, bah, on a fait quelques courriers pour certaines personnes. Je pense à un monsieur qui s'appelle Destiny, pour qui, je ne vais pas dire son nom de famille, hein, je dis que son prénom, pour qui on a écrit, parce qu'il a fait effectivement des diplômes, il avait fait des formations, il s'est intégré, il parle le français, il avait un CDI, enfin, il y avait des tas de choses qui étaient en sa faveur et qui pouvaient quand même faire en sorte que le préfet puisse reconsidérer, parce qu'il regarde si les gens travaillent, si les gens ont un CDI, si les gens parlent français, s'ils ont fait des efforts. Bon, c'est quelqu'un qui a un niveau d'études équivalent à 5 ans quand même après le bac. Ça a été reconnu, il a un papier qui le prouve, enfin qui est capable de s'intégrer en France, etc. On a écrit, et 2 mois après, on a écrit en lettre recommandée à monsieur Thierry Coudert, je ne me suis pas trompée, hein, boulevard Georges Sauvin, 27 000 Évreux. 2 mois après, monsieur le préfet, si tu m'entends, j'attends toujours ta réponse. Donc voilà, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.
C'est ça. Mais c'était les fêtes aussi, il n'a pas eu le temps de lire tout son courrier, il a reçu plein de cartes de vœux.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, ensuite, bah, vous avez vu, ça bouge un petit peu en France, il y a eu beaucoup de manifestations. Alors, des manifestations, certaines plus pacifiques que d'autres, effectivement, avec des revendications de tous ordres. Moi, ce que je voulais revenir, je ne vais pas juger sur le fond du bien fondé des manifestations. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est quand même très prégnant, c'est que des personnes qui, jusqu'à présent, ne manifestaient jamais, ont osé sortir de chez elles et exprimer des choses. Des gens invisibles, des femmes, des personnes âgées, ont osé aller manifester dans la rue. Alors, mélangé avec des gens qui peut-être parfois sont
plus agressifs, quoi.
Des comportements
un peu violents.
Voilà, un petit peu plus violents. Oui. Ce qu'il y a, c'est que je vais faire un parallèle entre 2 petits articles que j'avais vus dans la chronique. Un qui rappelait que depuis plus d'un an et demi, Amnesty avait enquêté sur le respect du droit de manifestation en France. Et le constat était sans appel, l'application de l'état d'urgence et un usage disproportionné de la force ont restreint ce droit fondamental de manière préoccupante dans ce pays. Depuis novembre 2015 et les terribles attentats qui ont touché la France, l'état d'urgence a été instauré et renouvelé à 5 reprises. Alors que son objet était de prévenir de nouvelles attaques, les mesures de l'état d'urgence ont été utilisées pour interdire 155 manifestations. Tous les 3 jours environ, une manifestation était interdite en France sous ce prétexte. Par ailleurs, 595 interdictions individuelles de manifester ont été ordonnées par les préfectures en France sous l'argument de prévenir les violences lors des manifestations, alors que le plus souvent, il n'existait que peu ou pas d'éléments démontrant que ces personnes auraient participé à des violences. Ça, c'était par rapport à l'état d'urgence. C'est-à-dire que ça a été observé sur 2016-2017. En 2018, on voit que s'appliquent les mêmes pratiques. C'est-à-dire qu'on a interdit de manifester et qu'on a arrêté des personnes qui allaient vers des lieux où il y avait des manifestations et qu'on les a directement arrêtées et empêchées d'aller manifester. Oui. C'est ce qui s'est passé en novembre et en décembre et aussi en janvier.
C'est un abus de pouvoir, ça s'appelle.
Voilà, il y a eu des abus de pouvoir et il y a eu aussi des usages excessifs de la force lors des manifestations des Gilets jaunes, notamment au mois de décembre. Donc les forces de l'ordre ont utilisé des flashballs, des grenades de désencerclement et des gaz lacrymogènes contre des manifestants majoritairement pacifiques. Je dis bien majoritairement pacifiques. Il y en a effectivement quelques-uns qui sont des casseurs ou qui sont les Black Blocs qui, eux, viennent pour en découvrir avec les forces de l'ordre, qui sont repérés dans chaque manifestation depuis longtemps, hein, mais ils sont vite identifiables. Là, il y a eu quand même des usages démesurés contre des femmes, des personnes âgées, des gens qui étaient venus manifester pacifiquement. Mmh. Il est vrai que le maintien de l'ordre pendant les manifestations est une tâche délicate et que certains manifestants ont commis des actes violents et illégaux, mais il n'en reste pas moins indispensable de respecter le droit français. Les policiers ont le devoir de maintenir l'ordre public et, ce faisant, ne peuvent recourir à la force que lorsque cela est strictement nécessaire. Lorsque le recours à la force est inévitable, ils doivent en user avec retenue. Selon les chiffres officiels, 1407 manifestants ont été blessés, dont 46 grièvement, depuis le début des manifestations le 17 novembre 2018. Et ça, c'était à la décembre. Mi-décembre.
Le 17 décembre, c'était.
Donc depuis, il y a eu plus de blessés d'amnistie. Encore. Au total, 717 policiers, gendarmes et pompiers ont aussi souffert de violences. Or, si les autorités ont de manière tout à fait légitime condamné à maintes reprises les actes de violence commis par des manifestants, elles n'ont pas exprimé d'inquiétude concernant le recours excessif à la force par des policiers qui doivent faire l'objet d'une enquête indépendante, impartiale et efficace. Alors, ce qui a été dénoncé aussi par Amnesty, c'est que les journalistes ont été aussi dans le viseur et ils ont été aussi victimes de cette répression de la police. Et les lycéens aussi, ça a beaucoup choqué l'opinion publique. Alors, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'en parler,
Didier. Non, j'en ai pas parlé,
Didier,
oui, des lycéens qui étaient
mis à genoux.
Mais
c'est vrai qu'il y a des lycéens qui, parallèlement au mouvement des Gilets jaunes, un mouvement lycéen a débuté début décembre, initialement pour protester contre la réforme du baccalauréat et la procédure d'admission à l'université. Dans la semaine qui a suivi, plus de 200 lycéens à travers la France ont été bloqués par des élèves. Ensuite, la tension est montée d'un cran et le 5 décembre, devant le lycée Simone de Beauvoir, à Garges-lès-Gonesse, un arbre a été incendié et les policiers ont commencé à revêtir leur équipement anti-émeute. Certains jeunes ont commencé à lancer des pierres, ainsi qu'un petit projectile enflammé en direction des forces de l'ordre qui se trouvait à environ 30 mètres.
Aussi, hein.
Comment ?
À prendre des bonbonnes de gaz chez les gens.
Qu'est-ce qui a pris des bonbonnes de gaz ?
C'est pas la même chose. Soudain, sans qu'il n'y ait eu d'éléments tangibles, il y a eu des tirs de flashball et il y a un élève qui s'est effondré. Donc, ensuite, c'est un témoignage qui a été fait par un professeur, ça. Et j'ai vu un élève s'effondrer. Je me suis approchée de lui le plus rapidement possible et quand il s'est retourné, j'ai vu qu'il avait la joue ouverte comme une grenade. Le fruit. Hein. Il n'y avait pas eu de lancer de pierre. Il était juste en train de parler tranquillement. L'adolescent est resté pendant 2 jours à l'hôpital. D'ailleurs, il y a eu un autre jeune homme qui a été blessé dans une manifestation samedi dernier, qui a été blessé aussi par un tir de flashball à la joue. C'est passé à la télé là, il y a 2 jours. Et les affrontements ont éclaté entre la police et des élèves au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne. Et au total, 163 élèves, dont les plus jeunes n'avaient que 13 ans, ont été arrêtés. Il y a une vidéo montrant des dizaines de lycéens contraints de s'agenouiller, les mains derrière la tête.
Ils
n'avaient
qu'à rester au lycée. Les mains pas participer aux manifestations.
Attends, les mains ça derrière la tête ou menottées dans le dos. Et cette vidéo est devenue virale. Alors, Françoise.
Oui, ben je regrette.
Mais quand même, l'usage excessif de la force de la police envers des gens mineurs peut être aussi inquiétante. C'est ça dont on parlait.
Tués, hein, ils leur ont fait les mains derrière la tête et ils les ont mis à genoux. Et ben, s'ils avaient été
parce
au lycée,
que néanmoins,
ça aurait été tranquille.
Quand même dans ces conditions à la police de faire son travail, c'est-à-dire d'assurer la sécurité des manifestants et de punir les casseurs. Hein, en principe, c'est ça que doit faire la police.
Là, c'est pas les manifestations qu'on a eues à Paris, c'était des manifestations de lycéens. Hein.
Oui,
donc c'était juste au lycée.
Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des casseurs qui s'immiscent dans les manifestations d'étudiants. Ah,
ben oui, mais ça.
Oui, mais ce que dit aussi Amnesty par rapport à ça, c'est que même s'il y a des débordements violents dans des manifestations, la présomption de manifestation pacifique est reconnue par le droit international. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont minoritairement violents que l'esprit pacifique de la manifestation doit être remis en cause par les forces de police qui sont chargées de la sécurité. Donc qu'elles soient chargées de la sécurité, c'est tout à fait normal. Mais elles doivent le faire, effectivement, avec ce qu'Amnesty appelle toujours une réponse proportionnée.
Et d'ailleurs, il y a une avocate qui a repris, et qui, avocate de deux adolescentes de 15 ans, qui a repris et qui a redit que les autorités doivent assurer la sécurité de toute personne et veiller à ce que le droit de manifester pacifiquement soit respecté. Elles doivent prendre des mesures légales proportionné pour protéger la vie et l'ordre public en évitant de recourir à une force excessive. Le port d'équipements de protection contre les gaz lacrymogènes, les flashballs et les grenades de désencerclement ne saurait être assimilé à une intention de commettre des violences, et les personnes arrêtées uniquement pour ce motif doivent être libérées.
Oui, et donc juste un petit complément par rapport à ce qui vient d'être dit, là, les échanges. Bon, on n'est pas toujours forcément, on n'a pas forcément tous la même façon de voir les choses, ça c'est tout à fait normal, c'est le débat. Mais simplement, encore une fois, la position d'Amnesty, c'est de dire la force publique de maintien de l'ordre doit avoir des réponses proportionnées. Petite parenthèse, la France est le seul pays de l'Union européenne à utiliser des grenades de désencerclement qui sont toutes interdites ailleurs, parce que effectivement elles sont dangereuses. Donc les forces de police françaises sont les seules à les utiliser. Ça pose question, forcément. Et deuxième chose, c'est que de toute façon, encore une fois, l'esprit pacifique ne va pas être mis en cause, et que agenouiller toute une série d'élèves, quelles que soient les raisons, s'ils avaient raison ou pas de manifester dans ces conditions-là, ou de s'opposer au projet de loi lycéen, enfin de l'éducation nationale, de toute façon, mettre toute une série d'élèves à genoux, les mains derrière la tête, avec entourés de policiers, effectivement, qui étaient avec leurs armes, ce qui est tout à fait normal qu'ils les aient, parce qu'ils sont détenteurs de la force publique, mais avec toute une série de policiers autour, était de toute façon, là aussi, un comportement qui obligeait les gens à prendre une position humiliante. C'est ce que Amnesty a dit aussi, effectivement, et que donc, encore une fois, quels que soient les bien fondés des gens pour faire ce genre de mouvement, les gens qui sont détenteurs de la force publique doivent toujours agir de façon réfléchie et proportionnée, et que tout acte de surenchère de violence ne peut amener qu'à l'inverse de ce qu'on défend. Donc voilà, après, encore une fois, que les gens, Amnesty ne se prononce pas du tout sur le bien fondé de pourquoi les gens manifestent. On constate simplement les exactions, et ça va malheureusement dans le sens de recours à la force de façon de plus en plus excessive, et ça ne peut amener rien de bon. Comme je disais en début d'émission, là aussi on constate un recul, ce qu'on peut appeler un recul de la démocratie, il faut être clair. Donc de toute façon, par rapport à ça, c'est un constat qu'on fait, et encore une fois, on va s'arrêter parce que là on est en train de déborder, il faut qu'on rentre l'antenne à 55 pour ne rien vous cacher.
Tu vas avoir du mal.
Donc on va effectivement, on va passer à la suite.
Non, il y avait une pause musicale.
Mais oui, il y a une pause musicale, on va l'écouter, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, encore une fois, le rapport d'Amnesty n'est plusieurs au mois de décembre. Et la dernière remarque que je ferai, c'est que ces rapports-là, dans un premier temps, au niveau des médias, ont été très très peu repris dans les médias. On commence à en parler beaucoup plus, pas sur le fond, mais sur la forme de ce que dit Amnesty. Amnesty ne se penche que sur la forme de la répression, encore une fois, pas sur le fond de pourquoi les gens manifestent, et rappelle le droit international et les obligations de la France par rapport au droit international, et on constate que le dévoiement du droit international par les autorités françaises est de plus en plus systématique. Voilà. Donc, on écoute un peu de musique.
Moi j'avais ses sangs en moi.
retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'entendre un deuxième morceau de Delgrès, le groupe qui vient jouer pour nous et avec nous le 2 février ici au Cube. Et donc, le morceau s'appelait Mojodi. Voilà. Donc, il y a Françoise qui voulait vous parler aussi de...
Du Sénégal. De ce qui se passe au Sénégal pour les enfants cassés de la ruée vers l'or. Il y a l'ONG La Lumière, qui est un centre de transit et de réinsertion professionnelle de Kédougou, et qui s'occupe des enfants et des jeunes femmes victimes de la traite dans ces mines. Voilà. Donc, cette organisation-là, cette ONG est importante pour sauver ces enfants-là. Ensuite, je voulais parler du Nigeria. Au Nigeria, Boko Haram utilise des fillettes pour perpétrer des attentats suicides. Le 16 juin 2018, durant la fête de l'Aïd el-Fir, de la fin du Ramadan, des attentats suicides ont été exécutés par 6 fillettes âgées de 7 à 10 ans. Ces attentats ont été commandités par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, à Damboa, dans l'état de Borno. Des djihadistes ont ensuite lancé des grenades sur la foule qui se rassemblait sur le lieu des attentats suicides. Il y eut 31 morts sur les lieux, mais beaucoup de blessés sont dans des états critiques. Boko Haram est coutumier de l'utilisation d'enfants pour perpétrer ce genre d'attentats et est aussi l'auteur de nombreux crimes graves contre les enfants. Enlèvement, utilisation comme enfant soldat, viol, mariage forcé, attaque d'écoles et d'hôpitaux.
On a finalement encore un tout petit peu de temps, donc je vais vous donner une autre bonne nouvelle, ça concerne Amnesty Inde, qui était poursuivi depuis 2 ans en justice, parce qu'il avait soi-disant, enfin l'action d'Amnesty Inde avait soi-disant appelé en gros à la rébellion. Et donc il y a un tribunal qui a décidé de classer sans suite ces poursuites. Donc, le communiqué d'Amnesty dit la chose suivante. Une décision de justice entérine la position d'Amnesty vis-à-vis d'une plainte à caractère politique. La décision de justice ordonnant le classement sans suite de la plainte pour sédition déposée contre Amnesty International Inde met un terme à une manœuvre honteuse visant à museler la liberté d'expression. La plainte était liée à un événement organisé par Amnesty Inde dans le cadre d'une campagne visant à réclamer justice pour les violations des droits humains commises dans l'état de Jammu et Cachemire. Le procès-verbal introductif de cette affaire mentionnait un certain nombre d'infractions, notamment des accusations de sédition, réunion illégale, émeute et promotion de l'inimitié. Nous avons, alors nous c'est Amnesty International bien sûr, nous avons été qualifiés d'antinationaux et criminalisés uniquement parce que nous réclamions justice pour les atteintes aux droits humains. Notre mission est de lutter pour défendre les valeurs constitutionnelles de justice, d'égalité et de liberté pour tous en Inde et nous ne nous laisserons pas intimider par ceux qui cherchent à nous faire taire. Donc au bout de 2 ans de procédure, le tribunal a finalement décidé de classer l'affaire sans suite. Ce qui fait dire à Amnesty évidemment que cette action judiciaire qui a coûté de l'argent aux autorités indiennes, cette affaire judiciaire n'aurait même jamais dû commencer. Voilà. Bien, on va s'approcher du terme de l'émission, je crois. Et donc, finalement, à force de dire qu'on va être en retard, on va finir par être en avance. donc, je ne sais pas, François, si tu avais plus d'autres informations à nous donner,
non,
une petite information rapide. Non,
c'est tout. Non, mais tu as...
Oui, moi, je voulais vous parler d'un appel à l'action, mais ça va être un tout petit peu juste. Enfin bon, je vais quand même vous en dire un mot. Donc, si vous voulez, vous nous envoyez un mail sur notre adresse mail. Je vous la rappelle, c'est amnesty, avec un y.evreux@gmail.com. Si vous voulez nous aider... C'est une lettre à envoyer avant le 13 février prochain. Si vous voulez nous aider à défendre une personne qui était réfugiée, qui s'appelle Ali Mohamed Al-Shovaik, qui était réfugié aux Pays-Bas. C'est quelqu'un qui a participé au printemps arabe au Bahreïn et qui était réfugié aux Pays-Bas. Et son délai de réfugié ayant expiré, il a été expulsé par les Pays-Bas. Il avait dit qu'on ne devait pas l'expulser vers son pays d'origine, le Bahreïn, parce qu'il risquait effectivement la détention et il risquait gros là-bas. Et bien sûr, les autorités du Pays-Bas l'auraient expulsé vers le Bahreïn.
Attends, je ne comprends pas là. Il avait le statut de réfugié, donc il avait eu le droit d'asile ou pas?
En tout cas, il avait un titre de séjour. Alors, je ne sais plus très bien.
Ah, un titre de séjour, oui. Le droit d'asile, c'est pas la même
chose.
Oui,
non, je sais. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Mais bon, mais enfin, il avait un titre de séjour effectivement aux Pays-Bas, mais qui était arrivé à son terme. Alors, c'est peut-être pas le droit d'asile. Hein. J'ai pas tous les éléments en tête. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas tous les éléments en tête. Et donc, il a été réexpulsé vers le Bahreïn. Donc, Amnesty se mobilise pour demander aux autorités bahreïniennes, dans un premier temps, quelles sont les informations par rapport à cette personne qui, bien sûr, a disparu depuis qu'il est retourné au Bahreïn. Donc c'était au mois de novembre. Et de demander à ce qu'il puisse effectivement être visité par un avocat, faire valoir ses droits là-bas, etc. etc. En gros, on demande aux autorités bahreïnes de le libérer s'il n'y a pas de poursuite contre lui. Et on prie les autorités de permettre à cette personne de consulter immédiatement et sans restriction un avocat. Et à veiller aux autorités, on leur demande à veiller à ce que dans l'attente de sa libération, il soit protégé de la torture et des autres formes de mauvais traitement. Voilà, donc on a une lettre toute faite, donc si vous voulez vous mobiliser pour lui, vous nous envoyez vos coordonnées sur le mail d'Amnesty et on vous renvoie la lettre toute faite, c'est à envoyer avant le 13 février 2019.
Un demandeur d'asile hollandais, c'est ça?
Non, il vient du Bahreïn. Donc, mais qui séjournait légalement aux Pays-Bas et qui a été expulsé par les Pays-Bas vers son pays d'origine, le Bahreïn, où il risque effectivement, il a été emprisonné et il risque effectivement de mauvais traitements, pour le moins, voire pire. Voilà. Alors qu'aucune preuve contre lui n'a été prouvée par les autorités, comme quoi il aurait commis un délit chez lui. Donc voilà, on va vous rappeler nos informations locales. Donc on vous rappelle qu'il y en a plusieurs. Le temps que je remette la main sur le petit papier. On en a plusieurs ce mois-ci. Donc on se retrouve déjà le samedi 26, c'est très bientôt. Pas samedi prochain, mais celui d'après. Pour ceux qui peuvent, à partir de 16h au Cadran, pour un spectacle théâtral qui s'appelle Le discours de Rosemary, qui est organisé par le Tangram. Il s'agit d'un spectacle spécialement destiné aux jeunes générations et qui est par rapport à l'éducation des droits humains. L'idée, c'est une écolière qui s'appelle Rosemary, qui veut devenir déléguée de sa classe et qui, par ce cheminement-là, prend conscience de tout ce que ça représente, effectivement, que la démocratie, et de prendre des responsabilités en termes de responsabilités dans le cadre d'une démocratie. Donc on sera présent. Donc venez nous voir et venez assister au spectacle samedi 26, 16h au Cadran. On vous rappelle en insistant lourdement notre soirée conférence débat et spectacle le 2 février au Cube avec le groupe Delgrez, conférence sur l'esclavage et après concert du groupe Delgrez samedi 2 février à partir de 19h au Cube. La conférence est évidemment gratuite, le concert par contre il y a un droit d'entrée, ce qui est normal, mais la conférence est bien sûr gratuite. Ensuite, on a une émission Fréquence Droits Humains. Je fais un clin d'œil à Vincent qui nous fait la technique, parce qu'on est co-responsable de ces émissions, avec le groupe, bien sûr. Le jeudi 24, et elle aura lieu normalement à la maison de quartier de Navarre, et sur le thème de travail et dignité humaine. Donc on a déjà plusieurs personnes qui nous ont confirmé leur participation. On vous fera la surprise ce jour-là. Donc si vous voulez venir nous voir à la maison de quartier de Navarre, c'est à partir de 18h en direct pour l'émission de radio de 18h à 19h30. Sinon, vous pouvez nous retrouver en direct sur l'antenne, bien évidemment. Et notre prochaine émission d'Amnesty, la fréquence droits humains, mais d'Amnesty, le 29 janvier, 19h, en direct sur l'antenne.
Et tu vas avoir fini à temps.
On a fini
trop
on
bien.
On a fini en avance. Donc si vous avez encore un petit mot, mesdames, je me retourne vers mesdames autour de moi, si vous avez encore un petit mot à dire, n'hésitez pas par rapport à nos combats pour les droits humains.
Eh bien, écoutez, pour le combat pour les droits humains, ce que je veux dire, c'est que les associations sur Évreux qui aident les personnes dans l'accompagnement des personnes qui demandent des papiers ou qui demandent le droit d'asile, on n'est pas très très nombreux et que donc il y a plusieurs associations qui, si vous souhaitez les rejoindre, soit le réseau d'éducation sans frontières, soit le CFED Asti d'Évreux, l'ADEME à Vernon, il y a beaucoup d'associations qui ont besoin d'avoir de nouveaux bénévoles pour les aider.
Et
voilà.
C'est le cas aussi pour le groupe d'Amnesty Évreux. Hein, de toute façon, plus on est nombreux pour défendre les droits humains, mieux ça marche. À bientôt. Rendez-vous le 25 en direct sur l'antenne.
Bonsoir.
Bonsoir. À bientôt.